L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 16 juillet, aux environs de midi, il y a 3 200 000 ans d'ici. Lorsque Lucie, une australopithèque d'une vingtaine d'années, s'avance dans les hautes herbes, en accélérant le pas. Elle se déplace sans peine sur ses deux jambes, même si sa démarche est quelque peu chaloupée. En fait, elle est inquiète. Un rhinocéros est dans le coin et est venu la déranger pendant qu'elle arrachait du sol quelques bons tubercules qui allaient faire son repas de la mi-journée. Elle choisit, comme plusieurs fois par jour, de grimper dans un arbre pour avoir une meilleure vue sur la savane alentour. Lucie espère y voir son groupe, sa famille en quelque sorte, qui s'est éparpillée la nuit dernière suite aux pluies violentes qui se sont abattues sur la région. Il ne pleut pas souvent dans cette savane de l'est du continent africain. Et quand ça tombe, c'est quelque chose. Et Lucie est aussi agile dans les arbres qu'à l'aise pour courir dans la plaine. Elle saute de branche en branche dans un balai d'une rare élégance. Tout ce que Lucie aperçoit au plus loin qu'elle peut regarder, c'est un troupeau d'impala près du fleuve. À ce jour-là, il fait particulièrement chaud dans ce coin de l'Afrique qui s'appellera un jour l'Éthiopie. Nous sommes le 16 juillet de l'an moins 3 200 000. Le soleil tape très fort. Et vu sa position très haute dans le ciel, on peut affirmer à quelques minutes près qu'il est midi. Un moment précis qui va changer le destin de Lucie et dont on va beaucoup parler plus de 3 millions d'années plus tard. Plus exactement en 1974. Mais n'allons pas trop vite. Restons, si vous le voulez bien, avec Lucie, dont le destin va basculer dans tous les sens du terme. Il est presque midi. C'est l'heure âge de mon histoire, celle de Lucie. Le soleil éclaire la savane de mille feux. Et puis, le soleil éblouit. Est-ce pour cette raison que Lucie estime mal sa trajectoire pour accrocher cette branche trop lointaine et s'y agripper? Est-ce pour cela qu'elle l'effleure à peine avant de glisser dans le vide? Il faut dire que Lucie n'a plus 20 ans. Elle va plutôt sur sa 25e année et, pour une australopithèque, eh bien, elle n'est plus de première jeunesse. Oh, Lucie tente bien de se rattraper, mais rien n'y fait. En s'écrasant 12 mètres plus bas au pied de l'arbre, elle tend le bras pour amortir sa chute. En vain. Une chute mortelle. La dernière chose que Lucie entendra avant de sombrer, c'est le crack de son bras droit qui se brise comme du bois mort. Lucie ne se réveillera pas. Les multiples fractures au bras et à l'épaule gauche, à la cheville droite, au genou gauche, au bassin et à une côte, ainsi qu'une hémorragie interne provoquée par le choc violent, lui auront été fatales. Lucie est allongée dans les hautes herbes de la savane. Aucun des membres de son clan ne la verra. Personne ne la retrouvera. En tout cas, pas tout de suite. Il faudra attendre plus de 3 millions d'années pour que des lointains parents de la pauvre Lucie ne tombent sur une partie de son squelette et racontent enfin son histoire. Lucie ne s'est évidemment jamais douté qu'un jour, elle ferait la une de ce qui compte de plus pointu comme publication scientifique. Et bien au-delà, elle fera tout simplement l'ouverture des journaux télévisés du monde entier en 1974. Mais comment connaissons-nous les circonstances de cet accident? Quelles sont les preuves de cette histoire? Hormis l'heure exacte, la date précise, à quelques jours près, ou plutôt à quelques petits milliers d'années près, c'est exactement ce qui s'est passé ce 16 juillet. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Or, ce n'est pas seulement l'histoire de cette lointaine cousine que l'on a longtemps considérée comme la grand-mère de l'humanité, mais bien notre histoire, avec un grand H. Lucie est morte. Mais bien malgré elle, elle va nous raconter beaucoup de choses. Sur son mode de vie, sur son environnement. Lucie va traverser le temps jusqu'à nous, à travers un très long voyage, de plusieurs millions d'années, on l'a dit. En attendant, son corps est allongé dans les hautes herbes, au pied de l'arbre fatal. Personne ne viendra la pleurer. Ses congénères ont bien été inquiets un moment et ont tenté de la chercher, mais un troupeau d'éléphants, ou plus exactement d'éléphantidés, les ancêtres beaucoup plus imposants de nos éléphants actuels, ont pris possession de ce coin de savane. Effrayée par les pachydermes, la petite troupe est déjà loin, à la recherche de nourriture et aussi d'un coin pour s'abriter et passer la nuit en sécurité. La chaleur étouffante de la journée laisse à nouveau place à de violents orages. Le fleuve n'est pas loin et les pluies abondantes finissent par le faire sortir de son lit. La savane est subitement inondée et le corps de la petite Lucie est rapidement enfui. Aucun charognard n'aura eu le temps de disperser sa dépouille et ce sera la chance. Des paléoanthropologues qui passeront par là, plus de 3 millions d'années après cet événement dramatique. Au fil du temps, le squelette s'enfonce plus profondément dans le sol au gré des intempéries et surtout des changements climatiques qui s'étalent sur des centaines de milliers d'années. Depuis la mort de Lucie, le climat a en effet connu des variations cycliques de plusieurs milliers d'années, de plusieurs centaines de milliers d'années. Les épisodes secs et humides se sont succédés et le corps de l'infortuné australopithèque s'est peu à peu enfoui plusieurs mètres sous la surface. Il faut savoir qu'en général, les restes d'animaux ou d'humains finissent dans la plupart du temps par être éparpillés par les charognards, on l'a dit, mais aussi par les pluies, les cours d'eau et les glissements de terrain. Le cas de Lucie est assez unique, car la majorité de son squelette va rester quasi au même endroit, ce qui, nous allons le voir, constitue un véritable trésor pour les paléoanthropologues. Nous voici donc quelques 3 200 000 années plus tard, à quelques petits milliers d'années près, on l'a dit. Le jour se lève ce 24 novembre 1974. Nous sommes à Adar, c'est-à-dire au fin fond du désert de l'Éthiopie, là où Lucie et ses congénères gambadaient il y a très très longtemps. Le soleil s'est levé sur le désert, bientôt la chaleur sera difficilement supportable. Donald Johanson, jeune paléoanthropologue américain, connaît bien les conditions difficiles dans lesquelles lui et d'autres examinent ce coin reculé du désert pour y trouver quelques fossiles dignes d'intérêt. Ce matin-là, il n'a aucune intention d'aller sur le terrain. Il supporte de plus en plus difficilement la chaleur suffocante qu'il attend à l'extérieur de sa tente. Pourtant, quelque chose le pousse à y aller quand même, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne le regrettera pas. C'est par hasard qu'il tombe sur un os. Ce qui, pour un paléoanthropologue, est en général une bonne nouvelle. Il dira « Quand j'ai regardé la pente sur laquelle il se trouvait, je pouvais voir un morceau de crâne, une partie importante de mâchoire et d'autres os. J'ai de suite vu que ce n'étaient pas les restes d'un singe. » Le jeune paléoanthropologue américain co-dirige depuis 1972 l'International Afar Research Expedition, autrement dit l'expédition internationale de l'Afar, l'Afar étant une région située à l'est de l'Éthiopie. Donald Johanson est associé à Maurice Taïeb, géologue et responsable du projet, et aussi à Yves Coppens, alors sous-directeur du Musée de l'Homme, dont on parlera beaucoup suite à cet événement. Nos trois spécialistes regardent la trouvaille. Et ils savent qu'ils viennent de faire une découverte qui ne manque pas d'intérêt à cet endroit, non loin des berges de la rivière Awash. La découverte est effectivement exceptionnelle, car on l'a dit, en général, les ossements sont éparpillés. Les cadavres ayant été notamment entraînés par les charognards et les cours d'eau. Ici, ce sont quelques 208 ossements disséminés sur quelques dizaines de mètres sur lesquels nos chercheurs mettent la main. Parmi ceux-ci, 52 sont regroupés dans un dépôt marécageux sur quelques mètres. Ils sont suffisamment en bon état pour être identifiés et sont collectés. Une mandibule, des morceaux de crâne et, surtout, des éléments post-crâniens, dont une partie du bassin et du fémur. Il s'agit d'un personnage complet à 40%. Chaque morceau a la même couleur, la même allure, la même fossilisation. Yves Coppens expliquera que c'est en cela que cette découverte est exceptionnelle. Il dira « Ce n'était pas un gisement à hominidés, mais un hominidé. » C'était cela le plus important. Les ossements appartenaient sans aucun doute au même individu. Ça signifiait que l'on pouvait estimer sa taille, son poids, ses proportions, juger ses articulations, déterminer quel était son comportement et même l'environnement dans lequel il vivait. Yves Coppens déclarera aussi « J'avais travaillé dans le sud du pays sur des couches géologiques tout à fait comparables, de même âge. Je savais à quel âge j'avais affaire. Je savais que j'avais des chances de trouver des ancêtres de l'homme. » Cet hominidé, un ancêtre de l'homme ? N'allons pas trop vite. C'est sous le code AL288-1 qu'a été répertorié le premier morceau du squelette découvert par notre équipe internationale de chercheurs. La raison pour laquelle elle sera finalement baptisée Lucie est assez cocasse. Et c'est Yves Coppens qui nous relate l'anecdote. Nous l'avons appelée Lucie parce que nous marquions les fossiles le soir à l'encre de Chine, avec un petit coup de vernis par-dessus pour que l'inscription ne bave pas et s'en aille. Un moment ennuyeux où, pour nous distraire, nous parlions entre nous ou écoutions la radio ou des cassettes de musique que nous avions emportées avec nous. Nous sommes dans les années 70. Pas d'MP3, pas de CD, et encore moins d'Internet, surtout dans le désert. La musique s'écoute sur de petites cassettes à bandes, ce qui en soi ne pose aucun problème, sauf évidemment pour le stockage des sons. Une cassette était égale à un album. Pour se distraire, l'équipe en avait emporté un bon stock. Et le chercheur précise. Nous avions de la musique classique. On aurait pu trouver un prénom chez Jean-Sébastien Bach ou chez Wolfgang Amadeus Mozart ou encore Ludwig von Beethoven. Mais nous avions aussi les Beatles et leur fameux morceau « Lucy in the Sky with Diamonds ». Et comme le demi-bassin retrouvé était typiquement féminin, nous étions certains d'avoir affaire à une femelle. Le nom de Lucy est de leur apparu comme une évidence. Cela dit, Lucy n'appartient pas au genre homo qui apparaîtra un peu plus tard. Lucy est une australopithèque de l'espèce, tenez-vous bien, Australopithecus afarensis, une espèce qui, pendant des centaines de milliers d'années, sera contemporaine de nos ancêtres directs. Nous allons voir ce que cela signifie. En attendant, que nous raconte cette découverte ? Les os fonctionnent comme une carte d'identité de l'individu et permettent d'en savoir beaucoup plus sur leur propriétaire. Sa taille, bien sûr, son poids approximatif, son régime alimentaire, en étudiant ses dents et même ses gestes via l'étude des articulations. Que nous révèle ceux de Lucie ? Eh bien, on sait désormais qu'elle mesurait entre 1,10 m et 1,20 m pour environ 25 kg. Lucie possédait un petit cerveau d'environ 400 cm3, ce qui est peu comparativement à celui de l'Homo sapiens, c'est-à-dire le vôtre ou le mien, qui fait 1000 cm3 de plus. Les recherches sur de nombreux fossiles d'Australopithèques mettront en évidence que la capacité crânienne de ces hominidés est en moyenne de 450 cm3, soit celle d'un chimpanzé actuel. Notre petite femelle australopithèque avait aussi un visage prognate. Sa mâchoire inférieure faisait saillie vers l'avant par rapport à sa mâchoire supérieure. L'étude anatomique détaillée de Lucie montre qu'elle vivait encore dans les arbres une grande partie de son temps, alors qu'au sol, dans la savane arborée, elle était bipède. Son squelette post-crânien présente en effet une combinaison de caractères qui trahissent à la fois un mode de locomotion bipède, au vu du port de sa tête, de la courbure de sa colonne vertébrale, de la forme de son bassin et de son fémur, et une aptitude à la vie arboricole, au vu des articulations de ses épaules et du coude, ainsi que ses longs bras et ses jambes courtes. Ces caractéristiques la classent donc entre nos ancêtres purement grimpeurs et nos ancêtres essentiellement bipèdes. S'il est peu probable que Lucie ait été une chasseuse, son faible volume cérébral ne l'empêchait pas de découper la viande avec des outils, comme le laissent penser des ossements retrouvés marqués par des traces de pierre. Son régime alimentaire était principalement à base de plantes, comprenant des feuilles, des fruits, des graines, des racines, des noix, mais aussi des œufs, des insectes et de petits vertébrés, tels que des rongeurs, des oiseaux et des lézards.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire avec un grand H de Lucie. L'heure où Lucie s'est donc tuée en tombant d'un arbre il y a 3 200 000 ans. Mais comment sait-on ce qui est arrivé à Lucie? Quels éléments permettent de raconter son histoire? C'est grâce, entre autres, à John Kappelman, un anthropologue de l'Université du Texas à Austin. Celui-ci a analysé de près différentes fractures relevées sur le fossile. En 2008, il a effectué des scans du squelette en haute résolution pendant 10 jours sous toutes les coutures. Il s'est aussi rendu à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où est logiquement revenu l'Australopithèque. En étudiant le fossile et les scans 3D, il remarque que l'humérus droit, qui est l'os du bras, est cassé d'une façon inhabituelle pour un fossile. Ce type de fracture survient lorsque la main touche le sol au moment d'une chute et que cela affecte les éléments de l'épaule, créant une signature unique au niveau de l'humérus, explique le chercheur. Il fait confirmer cette analyse par un chirurgien orthopédique d'Austin, le docteur Stephen Pierce. D'autres fractures, à l'épaule gauche, à la cheville droite, au genou gauche, au bassin et à une côte, étayent cette thèse de la chute fatale. Pour Yves Coppens, l'un des trois scientifiques à l'origine de la découverte de Lucie, c'est là une révélation pour le moins étonnante. Les arboricoles sont en général d'une étonnante habileté, d'une grande agilité et d'un équilibre à toute épreuve. Après 20 ans de fréquentation des arboricoles, chimpanzés, gorilles, etc., dans leur milieu naturel, « je n'ai jamais vu pareille chose se passer », déclare le célèbre chercheur. Pourtant, la chute mortelle accidentelle ne semble faire aucun doute. Lucie vivait à la fois au sol et dans les arbres. Et le fait qu'elle se déplaçait efficacement sur la terre ferme pourrait avoir compromis son habileté à grimper aux arbres. Son espèce, de plus en plus terrestre, aurait été prédisposée à des chutes plus fréquentes. Cela dit, le jour de l'accident qui lui a coûté la vie, elle a peut-être été tout simplement éblouie par le soleil. Du fait de sa bipédie, Yves Coppens et ses collègues ont cru longtemps que Lucie, identifiée comme Australopithecus afarensis, était notre plus ancien ancêtre direct jamais mis à jour. Vraiment? Hélas, pour le célèbre anthropologue, Lucie ne restera pas longtemps le plus ancien bipède découvert et qui plus est, elle n'est pas notre ancêtre direct. 20 ans après la découverte de Lucie, premier coup de théâtre. des mineurs qui exploitent une grotte au nord-ouest de Johannesburg en Afrique du Sud découvrent quelques ossements qu'ils envoient à tout hasard à un laboratoire. On ne sait jamais. Ça pourrait intéresser les chercheurs. Et c'est bingo. Un paléoanthropologue sud-africain, Ron Clark, reconnaît les os d'un pied d'Australopithèque. Il en déduit que le reste du corps doit encore se trouver à l'endroit dont provient ce squelette. En réalité, il identifie trois petits os du pied gauche. L'Australopithèque s'appellera donc Little Foot, autrement dit petit pied. La vie de paléoanthropologue est une vie de patience. Imaginez que près de 20 ans de fouilles seront nécessaires pour extraire le squelette quasi complet. Pris dans une gangue de roches, dures comme du béton, les ossements mettront du temps à être dégagés de la cavité, puis encore des années avant qu'ils soient totalement débarrassés des sédiments calcifiés qui les recouvrent. L'Australopithèque gisait encore dans la position de sa mort, due à une chute de plus de 30 mètres dans une des nombreuses grottes de la région. Littlefoot a rapidement été recouvert par des cailloux qui ont maintenu le squelette en place. Un cas de figure exceptionnel. Puis l'érosion, les infiltrations et les coulées stalagmatites l'ont enseveli dans un complexe tombeau rocheux. Décidément, après Lucie tombée d'un arbre, voilà un de ses congénères tout aussi malchanceux ou tout aussi maladroit. Plus précisément, une de ses congénères, le squelette quasi complet, reconstitué à 95%, permet de dire que Littlefoot était une femelle d'environ 30 ans, mesurant 1,35 m. Il faudra attendre 2014 et une étude complète de la stratigraphie des sédiments encadrant Littlefoot pour dater le moment précis où celle-ci a rejoint ses ancêtres. Et à propos d'ancêtres, en voilà un, ou plutôt une, qui affiche 3,7 millions d'années. Littlefoot, le plus complet des australopithèques connus à ce jour, est donc plus vieille de Lucie de près d'un demi-million d'années. Littlefoot est une australopithèque, on l'a dit, mais d'une espèce un peu différente de Lucie. C'est une Australopithecus prometheus. Elle était parfaitement bipède, malgré des pieds un peu différents des nôtres. Littlefoot passait aussi une partie de son temps dans les arbres, notamment pour dormir à l'abri des prédateurs. Quoi qu'il en soit, Littlefoot est de fait une cousine de Lucie avec quelques différences morphologiques clairement établies, dont un visage plat et allongé, entre autres. Octobre 2000, nouveau coup de théâtre. Nous sommes au Kenya cette fois. 13 restes fossiles correspondant au moins à 5 individus distincts sont exhumés et mettent à jour une espèce éteinte d'hominidés. Aurorin tugenensis, âgé d'environ 5,9 millions d'années. D'après la taille des os disponibles et surtout des fémurs, Aurorin pouvait mesurer 1,40 m. Pour un poids de 50 kg. Ce qui en fait un hominidé primitif exceptionnellement grand. Et comme Lucie et Littlefoot, Aurorin était bipède, il grimpait aux arbres. Aurorin vivait probablement parmi les arbres en forêt clairsemée ou en bordure de forêt humide. Son alimentation était celle d'un omnivore, fruits, graines, baies, insectes et occasionnellement de la viande. Remarquons qu'aucune trace d'outil n'a été trouvée près des fossiles d'Aurorin. Quoi qu'il en soit, avec la découverte de cette hominidée de quasi 6 millions d'années, nous remontons le temps des millions d'années avant l'apparition de Lucie. Et l'intérêt avec les chercheurs, c'est qu'ils n'arrêtent pas de chercher. Et à force, ils multiplient les découvertes. Nous ne sommes donc pas au bout de nos surprises. Vous ne serez pas étonné si je vous dis qu'un an plus tard, un nouveau coup de théâtre vient secouer le milieu de la paléoanthropologie. Voilà en effet que l'on trouve un crâne de préhumain vieux d'environ 7 millions d'années. Autrement dit, deux fois plus ancien que notre petite Lucie. Un préhumain semble-t-il déjà bipède. Or, la bipédie est le critère essentiel sur lequel les chercheurs s'accordent pour parler de préhumain. Le crâne découvert dans le désert du Djourab, au nord du Tchad, en 2001, par une équipe franco-tchadienne, appartiendrait à une nouvelle espèce à laquelle il donne le nom scientifique de Sahelanthropus tchadensis, et que les spécialistes considèrent comme l'une des toutes premières espèces d'hominidés apparues sur Terre. Cet hominidé fut baptisé Toumaï, ce qui signifie « espoir de vie ». Mais attention, toute la communauté scientifique n'est pas sur la même longueur d'onde. Toumaï était-il bien un hominidé ou s'agissait-il d'un singe, comme le laissait par exemple penser le volume de sa boîte crânienne? Sur cette question, le débat ne semble pas tout à fait clos. Dès 2002, ses découvreurs le présentaient sans conteste comme le plus ancien ancêtre de l'humanité. Les études ultérieures, employant entre autres des techniques de reconstitution du crâne en 3D, apportèrent une série d'arguments étayant fortement la thèse du caractère d'hominidé des Sahelanthropus tchadensis. Malgré un faisceau de preuves convaincantes en faveur du caractère préhumain de Toumaï, la preuve définitive ne sera apportée que lorsque l'on découvrira un squelette plus complet, avec surtout des membres. Cela dit, l'âge de Toumaï ne fait plus de doute. En appliquant une nouvelle méthode de datation qui n'avait été utilisée jusqu'à présent que sur des sédiments marins, les chercheurs ont pu dater les dépôts sédimentaires dans lesquels le crâne de Toumaï a été découvert. Son âge est ainsi évalué entre 6,9 et 7,2 millions d'années. Mais, allez-vous me dire, c'est juste un crâne. Comment peut-on affirmer que le corps qui portait ce crâne se tenait debout sur ses deux jambes? Eh bien, c'est l'étude de la position du trou occipital dans lequel s'emboîte la colonne vertébrale qui montre que le crâne se situe logiquement dans la verticalité du corps. De plus, on a retrouvé d'autres fossiles, notamment des fémurs et des os du bras qui semblent bien confirmer la bipédie de Toumaï et de ses congénères. Que conclure de tout cela? On pense donc aujourd'hui qu'il y a 8 à 10 millions d'années, lorsque les lignées des grands singes et celles des humains se sont séparées de leurs ancêtres communs et ont pris des chemins différents, une sorte d'embranchement évolutif a permis l'émergence de nombreuses lignées de préhumains, dont Lucie. Aujourd'hui, il est admis que les Australopithèques afarensis se situent sur une branche déjà séparée de celle du genre Homo. Lucie serait donc, non pas notre arrière-arrière-grand-mère, mais une très ancienne cousine éloignée. Alors, qui est le plus ancien préhumain? Autrement dit, notre plus ancien ancêtre identifié. Celui dont nous descendons toutes et tous. Ce n'est pas Lucie, on l'a vu. Les Australopithèques s'éteindront, en outre, il y a environ 1 million d'années. Ce ne sont pas nos ancêtres, mais nous avons par contre un ancêtre commun. Littlefoot, plus ancienne que Lucie? Cet Australopithèque n'est pas non plus directement notre ancêtre. Aurorin, celui-là affiche quasi 6 millions d'années, mais on l'a vu, il a été devancé par Toumaï, que l'on situe 1 million d'années plus ancien. Eh bien, il semble aujourd'hui que Toumaï puisse revendiquer le titre de plus ancien préhumain jamais découvert à ce jour. Ce serait donc lui, notre arrière-arrière-arrière-arrière, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ce serait lui le doyen de l'humanité. Autrement dit, il serait non seulement l'ancêtre du genre Homo, et donc de l'Homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi, mais aussi, bien sûr, celui de Lucie et de tous les hominidés qui se sont succédés au fil du temps. Ce que Lucie, Littlefoot, Aurorin et Toumaï nous montrent, c'est que l'image représentée dans nos livres de nos ancêtres marchant à quatre pattes puis se relevant progressivement est totalement fausse. Nos ancêtres se tenaient déjà debout lorsqu'ils vivaient dans les arbres et lorsqu'ils en sont descendus, ils marchaient debout. L'homme ne descend pas du singe, mais de l'arbre. Le vieux schéma d'une chaîne linéaire menant des premiers primates à l'Homo sapiens sapiens a laissé la place à un buisson touffu. L'homme aurait donc partagé un ancêtre avec le bonobo et le chimpanzé commun, voilà plus de 7 millions d'années. Une grande équipe internationale de scientifiques est parvenue à établir le génome complet du bonobo et à démontrer que l'ADN de celui-ci, ainsi que du chimpanzé commun, était similaire à 98,7% au nôtre. Ainsi, bonobo, chimpanzé, gorille, orang-outan et homme moderne appartiennent à la même famille et ne se seraient séparés que depuis plus de 7 millions d'années. Le moment où apparaît Toumaï. Ce dernier serait donc le plus ancien préhumain.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous parle de Lucie, de sa chute fatale, de la découverte de son squelette 3 200 000 ans plus tard et de comment cette découverte a bousculé le milieu de la paléoanthropologie. Car si Lucie n'est pas notre plus ancien ancêtre, pourquoi occupe-t-elle encore aujourd'hui le devant de la scène? Il y a non seulement des hominidés plus anciens, mais aussi des fossiles beaucoup plus complets mis à jour. Et tous ces ancêtres n'ont pas été aussi incarnés que Lucie, sur qui, pour la première fois, on pouvait projeter une silhouette et presque un visage. Lucie a été la plus médiatisée. Elle a aussi été la première à être affublée de ce titre de plus ancien ancêtre de l'humanité. En peu de temps, elle est tout simplement devenue une superstar. Au moment de sa découverte en 1974, le monde scientifique était en effervescence. On pouvait enfin recomposer en grande partie un squelette de cette époque et de là, reconstituer Lucie telle qu'elle était, jusqu'à sa morphologie complète, pour la faire revivre parmi nous. La mise en lumière de cette petite australopithèque nous a offert un voyage de plus de 3 millions d'années dans notre passé. Lucie a en effet révolutionné notre perception des origines humaines en démontrant que l'acquisition de la bipédie datait d'au moins 3,2 millions d'années et avait largement précédé le processus d'accroissement du volume endocrânien. On peut comparer la notoriété de Lucie à celle de Neil Armstrong, le premier homme qui a marché sur la Lune. On se souvient de lui, beaucoup moins des autres. Le premier a toujours droit au feu des projecteurs. Les suivants n'ont jamais les mêmes faveurs. Selon Coppens, le fait que ce soit une femme a beaucoup joué. On l'a présentée à tort comme la mère de l'humanité. Mais elle est devenue un symbole qui nous ramène à nos origines. La recherche de l'origine de l'homme, et par-delà celle de l'univers, est une préoccupation très ancienne pour toute l'humanité. De cette réflexion visant une compréhension globale du monde, d'une recherche de la vérité, est née la philosophie chez les Grecs. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard, avec Galilée, que la science a commencé à se détacher de la philosophie. Prenant conscience que la Terre n'est pas au centre de l'univers, les savants ont commencé à s'interroger sur son histoire. Ils ont voulu lui donner un âge en cherchant des archives capables de témoigner des époques traversées. Amorcée au XVIIe siècle, cette quête s'est poursuivie jusqu'au XIXe siècle. Les sciences de la vie et les sciences de la Terre ont alors pris un essor considérable et la vraie nature des fossiles comme témoins de la vie passée s'est révélée. La théorie de l'évolution pouvait émerger. La recherche de nos origines se poursuit aujourd'hui à travers la paléontologie et de multiples disciplines scientifiques. L'émergence des premières lignées qui conduiront plus tard à l'homme nous fait remonter, on l'a vu, il y a 7 millions d'années. Celle des premiers mammifères nous plonge au temps des dinosaures qui, pour rappel, ont disparu voilà 65 millions d'années. Et l'émergence des premiers vertébrés terrestres, à l'origine de cette épopée, nous ramène à des temps encore plus reculés, à des centaines de millions d'années en arrière. Le plus ancien préhumain n'aurait donc que 7 millions d'années, ce qui, avouons-le, relativise assez bien les choses. Nous sommes une espèce très récente. Et nous allons voir que le genre Homo sapiens sapiens, auquel nous appartenons, n'a lui que quelques petites centaines de milliers d'années, mais nous y reviendrons. En attendant, puisque Lucie est la star de notre histoire, continuons à nous intéresser à elle et à l'époque à laquelle elle vivait. Lucie vivait au Pliocène, une époque qui s'étale sur quelques 2,5 millions d'années et qui prend fin il y a 2 600 000 ans. À bien des égards, l'ère Pliocène a été un paradis pour les primates. La température du globe était de 2 à 4 degrés plus chaude qu'aujourd'hui et le niveau des océans plus haut de 18 mètres. On ne trouvait pas de calottes glaciaires au pôle Nord. Le Groenland n'était pas encore glacé et les forêts boréales s'étendait jusqu'à l'Arctique. Lucie partageait la savane avec ceux qu'on a appelés les méga-herbivores, dont entre autres au moins 3 espèces de girafes, 2 espèces de rhinos, des hippopotames et pas moins de 4 espèces différentes d'éléphantidés. Les singes européens vivaient dans des forêts humides, de type sous-tropical. Ces températures résultaient en partie d'un taux plus élevé de gaz carbonique, plus de 400 particules par million, chiffre atteint à nouveau pour la première fois récemment, en 3 millions d'années. C'est pour cela que des chercheurs étudient l'ère Pliocène, pour essayer de comprendre à quoi notre climat pourrait ressembler si nous échouons à ralentir la progression du réchauffement climatique. Mais il y a 3 millions d'années, c'est un changement climatique différent qui se préparait. Les Amériques du Nord et du Sud se sont soudées, et le courant entre les océans Atlantique et Pacifique a été interrompu, ce qui a modifié le sens des courants sur la planète entière. Le tout nouveau courant Gulf Stream a alors dirigé ses eaux chaudes directement vers l'Europe du Nord qui, en s'évaporant, retombe sous forme de pluie et de neige en diluant suffisamment les eaux salées de l'océan Arctique pour leur permettre de geler. C'est ainsi que la calotte glaciaire a commencé à se former il y a 3 millions d'années, précipitant le climat vers une ère glaciaire. Je vous raconte tout cela car ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment, parmi les différents hominidés qui peuplaient la planète à cette époque, comment se fait-il que seul le genre Homo s'est finalement imposé sur l'entièreté du globe. Suite à ce changement climatique majeur, en Europe continentale, l'environnement humide subtropical a commencé à s'assécher. Et quand l'ère Pliocène a cédé sa place à l'époque Pléistocène, il y a 2,6 millions d'années, on est entré dans ce qu'on a appelé l'âge de glace. L'âge de glace, vous voyez. Les mammouths laineux, les tigres à dents de sabre, les ours des cavernes, les rhinocéros laineux, les lions des cavernes, les élans géants, les bœufs musqués. L'âge de glace a sonné le glas de toutes les races de primates en Europe, sauf une. Homo. Le genre humain. Celui-ci est apparu, devinez où ? En Afrique, bien sûr, autour du début de l'ère Pléistocène, c'est-à-dire il y a environ 3 millions d'années. Les premiers hominidés du genre Homo se sont rapidement propagés à travers ce qu'on appelle communément l'Ancien Monde. Cette partie du monde connue par les Européens depuis l'Antiquité, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. La vie n'était pourtant pas facile pendant ces quelques millions d'années. Les premiers êtres humains ont fait preuve d'adaptation à des environnements auxquels les autres primates ne pouvaient survivre, en inventant des outils, des stratégies alimentaires tenant compte des saisons et en maîtrisant le feu. Vers le milieu du Pléistocène, plusieurs espèces humaines peuplaient l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Le Pléistocène. Et donc cette période qui a perduré jusqu'il y a 12 000 ans, quand la Terre s'est réchauffée à nouveau d'à peine 5 degrés, pour nous offrir ce climat idéal qui a permis à la vie de s'exprimer sous toutes les formes que nous connaissons aujourd'hui. Un climat idéal, en quelque sorte, jusqu'il y a peu, quand les actions humaines ont commencé à provoquer ce réchauffement beaucoup trop rapide que nous vivons aujourd'hui. Un nouveau réchauffement de quelques degrés nous ferait revivre un climat comparable à celui qu'il y avait au temps de Lucie. Mais revenons à nos moutons, autrement dit, à ces premiers hommes qui vivaient au début de ce fameux âge de glace. Celui que l'on considère comme le premier maillon du genre Homo et Homo habilis, que l'on situe entre 2,4 et 1,6 millions d'années. Il a vécu en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. On le considère comme le premier homme véritable, en raison de la forme de son crâne et sa capacité crânienne de 600 cm3 en moyenne. Il y a eu ensuite Homo erectus, et puis aujourd'hui, celui qui peuple toute la planète, Homo sapiens sapiens, appelé aussi anciennement homme de Cro-Magnon, une appellation que les chercheurs n'utilisent plus vraiment. Aujourd'hui, on parle d'Homo sapiens sapiens ou d'homme moderne. Il y eut aussi l'homme de Néandertal, une espèce qui s'est éteinte il y a environ 30 000 ans. Et comme il semble maintenant établi que notre ami Toumaï est le premier préhumain et donc notre plus ancien ancêtre, qu'en est-il du plus ancien représentant connu de notre espèce, Homo sapiens sapiens? C'est sur le site marocain de Djebel Iroud que les fossiles du plus ancien Homo sapiens sapiens connu à ce jour ont été trouvés. Celui-ci vivait il y a environ 315 000 ans au Maroc. Cette découverte déplace nos origines vers le nord-ouest du continent africain, alors que les fossiles les plus anciens trouvés jusqu'alors provenaient d'Afrique du Sud et de l'Est. Mais bien malin, qui pourra affirmer que de nouvelles découvertes ne seront pas effectuées à d'autres endroits du continent africain? L'Afrique est en effet incontestablement le berceau de l'humanité, et ce, pour deux raisons. La première est que les plus proches cousins actuels de l'homme sont les grands singes africains, ce qu'avait déjà énoncé Charles Darwin dès 1871. La seconde raison est que les plus anciens fossiles d'hominidés ont été découverts en Afrique. Grâce à la génétique, on sait aujourd'hui que tous les humains descendent du même ancêtre. L'analyse d'échantillons d'ADN prélevés sur des milliers de personnes à travers les cinq continents permet d'affirmer que 99,9% des êtres humains sont génétiquement identiques. Nous appartenons tous à une seule espèce, l'espèce humaine, quelle que soit notre couleur de peau. Quant à Lucie, rappelons que les Australopithèques se sont éteints il y a environ 1 million d'années. Ils ont disparu bien avant l'apparition d'Homo sapiens sapiens, mais ils ont côtoyé d'autres espèces d'hommes préhistoriques, comme Homo habilis, entre autres. Les Australopithèques étaient les plus proches parents du genre Homo, des cousins en quelque sorte, au point que l'on a cru longtemps qu'ils étaient nos ancêtres, ce qui n'est pas le cas. Mais entre cousins, on a quand même beaucoup de points communs. Le plus important étant, bien entendu, cette fameuse bipédie qui nous met dans la même famille au sens large, celle des hominidés. Une famille dans laquelle on trouve aussi les gorilles, les orang-outans, les chimpanzés et les bonobos. Ceux-ci sont capables de se mettre debout, mais ne peuvent pas marcher de cette façon en permanence. L'homme moderne, lui, en est capable. Et les Australopithèques, comme Lucie, aussi. C'est notamment pour cela que sa découverte en 1974 a été un grand pas dans la connaissance de notre famille, les hominidés. Et, quelles que soient les découvertes futures, les paléoanthropologues garderont toujours une affection toute particulière pour la petite Lucie. Voilà donc pour ce récit palpitant que j'ai eu le plaisir de vous partager avec la complicité de Thierry de Soif.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.